Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le point sur l'offensive turque sur Ras el Ain au nord de la Syrie. Nous ferons également état de l'exécution de civils au sud de la ville de Tal Abyad. Evrin Ralaf, éminente figure de l'opposition syrienne, fait partie des victimes. Nous serons également en ligne de Tunis en ce dimanche d'élection présidentielle, second tour d'un scrutin au terme d'une campagne qui n'aura pas passionné les foules. Trois journalistes du service public de la radio, dont deux de Radio France, récompensés hier soir lors du prix Bayeux des correspondants de guerre pour leurs travaux en Syrie et en Irak. À la fin de cette édition, la face cachée du Globe, signée Nabila Hamel, qui traite des nouveaux centres de transit pour réfugiés installés au début du mois de septembre au Rwanda. Les forces démocratiques syriennes appellent Washington à fermer l'espace aérien face à l'aviation turque qui pilonne Ras el Ain, ville stratégique que cherchent à contrôler les milices à la solde d'Ankara. Ankara qui prétend être arrivée à ses fins quand les effectifs kurdes disent avoir opéré un retrait partiel avant de lancer une contre-attaque. Il est délicat à l'heure qu'il est de livrer des bilans fiables de lourds combats. Nos envoyés spéciaux Aurélien Colli et Benjamin Chauvin se sont approchés autant que faire se peut des affrontements.
Tal Tamer à une trentaine de kilomètres des combats qui font rage dans la localité de Ras el Ain, Serikanié en kurde, l'un des deux secteurs frontaliers où se concentre l'offensive turque. Difficile d'aller au-delà, les combattants kurdes ne le recommandent pas en raison des frappes aériennes de l'aviation turque. La route pourrait être coupée aussi dans la journée, car c'est par là aussi que les combattants kurdes sont ravitaillés. On est allé ce matin dans l'hôpital de Tal Tamer, minuscule hôpital où arrivent régulièrement des ambulances ou des voitures civiles converties en ambulances. Le Croissant Rouge kurde ramène du front des combattants et des civils blessés ou morts. Là-bas, les médecins ont très peu de matériel, essaient de stabiliser les blessés les plus graves avant qu'ils soient redirigés vers Asaké, plus au sud. On a parlé à un homme blessé par l'effondrement de sa maison, un civil qui confirme des bombardements qui visent aussi des habitations. On a croisé aussi des pick-up ramenant des corps de combattants tués. Tal Tamer, où nous sommes, où il y a également beaucoup de déplacés qui ont fui les zones de combat, et on a appris aussi tout à l'heure que la route qui allait vers Kobané, plus à l'ouest, était désormais sous le contrôle de l'armée nationale syrienne, des factions qui ont été armées et qui sont déployées par la Turquie, mais considérées par les Kurdes comme islamistes.
9 civils ont été exécutés hier sur la route qui mène de Membij à Kamishli. 9 civils, parmi lesquels Evrin Ralaf, personnalité importante du Conseil démocratique syrien qui était de toutes les négociations avec les puissances occidentales et organisations internationales. Evrin Ralaf, évoqué par Hamid Bozarslan, directeur de recherche à l'EHESS et spécialiste du Moyen-Orient avec Nabila Hamel.
C'est la coprésidente d'un parti syrien qui est interconfessionnel, interethnique, qui effectivement a un projet pour la Syrie dans sa totalité, donc qui ne peut pas être considéré comme une séparatiste kurde ou à la solde du régime. Donc c'est une figure séculariste, laïque, qui a toujours refusé effectivement l'option djihadiste pour la Syrie. Donc effectivement c'était une figure quand même assez connue des chancelleries occidentales.
Qu'est-ce que l'on sait des milices ou des forces qui sont derrière cet assassinat?
Il y a sans doute les mercenaires pro-turcs qui se sont regroupés sous le nom de l'armée syrienne libre d'abord, qui n'a rien à voir avec l'armée syrienne libre de 2011, et par la suite ont pris le nom de l'armée nationale syrienne. Ce sont les mêmes djihadistes qui avaient déjà investi Afrin, la ville kurde d'Afrin, à la fin de 2017. Et aujourd'hui, sans doute, ce sont eux qui l'ont sorti de sa voiture et l'ont exécuté. Donc on ne peut pas du tout dire que c'était juste un tir. Et ces djihadistes, de toute façon, n'avaient pas fait mystère de leur volonté de faire payer très très cher aux militants kurdes. Ce sont des groupes qui sont plus ou moins liés à la Turquie, affiliés à la Turquie, mais qui n'ont pas non plus coupé leur lien totalement avec Al-Qaïda. Mais vous avez aussi d'autres groupes comme la brigade Noureddin, etc. Donc vous avez vraiment tout un ensemble de milices qui ne sont pas nécessairement au sein d'une même structure, qui gardent leur autonomie et qui peuvent collaborer avec la Turquie ou dans certains cas s'opposer à la Turquie.
Hamid Bozarslan avec Nabila Hamel. À la veille d'une médiation pakistanaise, le Premier ministre Imran Khan fait en effet route vers Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères tend la main à Riyad. L'Iran est toujours prêt à discuter avec ses voisins, y compris l'Arabie Saoudite, pour dissiper tout malentendu avec ou sans médiateur, ajoute Abbas Moussaoui. La Tunisie aux urnes pour un second tour d'élection présidentielle au terme d'une intense campagne électorale. Qui de Nabil Karaoui, homme d'affaires et des médias poursuivi pour fraude fiscale, ou de Kais Saied, professeur de droit constitutionnel et néophyte en politique, deviendra le deuxième président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire du pays? Que de défis pour le gagnant, qui plus est s'il est élu par un maigre corps électoral. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
C'est en direct de Tunis. Christian, l'abstention pourra en effet être élevée.
Oui, parce que cette présidentielle est placée sous le signe de la morosité, du désenchantement. Il faut dire que l'économie tunisienne est à la dérive, dette publique qui explose, chômage des jeunes qui dépasse les 35%, une inflation à 7 points. Pourtant, malgré ce contexte très difficile, les Tunisiens savourent ce moment démocratique où chacun peut faire entendre sa voix. Samia Ben Sultan, puéricultrice, est allée voter ce matin à l'école primaire de la rue Marseille, dans le centre-ville de Tunis. Elle ne cache pas son enthousiasme pour le candidat Kais Saied, le favori du scrutin.
Kais. Parce que c'est un homme propre, c'est un homme... J'en sais pas, il a tous les... L'autre, non. On a encore des gens dans l'État qui sont pas bien corrects, qui sont pas bien.
Parce que là, l'économie, ça va mal.
Oui, ça viendra à tous les pays. Ça va, même en France, ça va pas.
Mais d'autres voient en Kais Saied un juriste sans envergure, qui plus est soutenu par les islamistes d'Ennahda. Toufik est un homme d'affaires et lui, il n'hésitera pas, il votera Nabil Karoui, seule personnalité capable, selon lui, d'insuffler un nouveau souffle à l'économie tunisienne.
On a choisi le moins pire, c'est tout. Celui qui a plus d'affaires. Il aurait plus de compétences, surtout à l'extérieur. Chose qui est plus très importante pour notre patrie. C'est mieux qu'un universitaire qui passe 3 mois de vacances, quoi. L'autre, c'est un juriste, un homme qui est propre. Et pour gérer un bordel, il faudra pas une vierge. Allez, bonne journée.
Alors, quel que soit le nouveau président, les chantiers qui l'attendent sur son bureau ne manquent pas, à commencer par celui de la formation du prochain gouvernement qui s'annonce d'ores et déjà comme un casse-tête politique.
Merci à vous, Christian Chesneau, avec Laurent Macchietti, en direct de Tunis. Couvre-feu à Quito, capitale de l'Équateur sous contrôle militaire, au 11e jour d'une lourde crise politique. La population en colère endure de douloureuses réformes enclenchées par le gouvernement au début du mois, en échange d'un prêt de 4,2 milliards de dollars contracté auprès du FMI. C'est dans ce climat que s'ouvre aujourd'hui un dialogue entre la présidence et la puissante Confédération des nationalités indigènes. En ouverture de ce journal, nous étions dans le nord-est syrien, ravagé par la guerre depuis des années. Ce terrain dangereux, parcouru par les reporters qui racontent l'abîme. 3 reporters du service public de la radio ont en effet été récompensés pour la qualité de leur travail hier soir à Bayeux. Bonjour Cédric Hermel.
Bonjour.
3 reportages réalisés en Syrie et en Irak.
C'est un métier qui parle des conflits mais aussi d'histoire de Français. Sophie Parmentier, 2e du prix Bayeux-Calvados, racontait en février sur France Inter et France Culture celle de Mélina Bouguedir qui purge une peine de 20 ans de prison à Bagdad en Irak.
La prison des femmes à Bagdad est cerclée de barbelés, cernée de miradors au bout de nombreux checkpoints avec véhicules blindés, soldats armés jusqu'aux moustaches et policiers antiterroristes cagoulés de noir.
Un terrain très dangereux, raconte Sami Bourkhlifa de RFI, premier du prix Bayeux-Calvados. Il était à Barousse, au nord-est de la Syrie, en mars dernier, de poursuivre la fin des dernières poches de résistance de Daesh dans des conditions très difficiles.
Ce reportage a été d'abord tourné en pleine nuit. On était plongé dans le noir total. Les personnes que j'ai interviewées à ce moment-là, j'ai entendu leur voix. Je leur ai parlé, mais je n'ai jamais vu leur visage. Il fallait faire très très attention, ne pas allumer de lumière, ne serait-ce qu'être éclairé par un téléphone ou par nos enregistreurs, les nagras qui pouvaient faire de la lumière, sans parler des principaux dangers qui étaient les kamikazes du groupe État islamique qui pouvaient s'infiltrer, passer les lignes pour se faire exploser au milieu des forces kurdes.
Un travail dur mais essentiel pour informer sur des terrains d'opération lointains qui ont un impact chez nous, estime le reporter, avec le retour des djihadistes de l'État islamique. De son côté, le 3e lauréat, Mathieu Mondoloni de France Info, s'est dit très fier et très ému de faire partie de ce podium et pense à Kinan, le petit garçon kurde qu'il a rencontré, ancien esclave de Daesh qui a tout oublié de sa culture maternelle, celle du Kurdistan. Mathieu Mondoloni les observe aujourd'hui, ces Kurdes, il suit l'offensive turque dans le nord de la Syrie, car la correspondance de guerre ne connaît que peu de répit.
Merci à vous Cédric Hermel. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de la rédaction de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Une attaque dans une mosquée du nord du Burkina Faso a fait 16 morts vendredi. Cette tuerie n'a pas été revendiquée, mais ce n'est pas la première fois que des lieux de culte musulmans et des imams sont la cible de groupes terroristes. Depuis 4 ans, la violence djihadiste a fait 600 morts dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. C'est pour dénoncer le terrorisme et la présence de bases militaires étrangères en Afrique qu'une manifestation a rassemblé plus d'un millier de personnes hier à Ouagadougou. Mardi, et pour la première fois depuis le mouvement pour un changement du système en Algérie, la manifestation hebdomadaire des étudiants a été empêchée et réprimée. 3 jours plus tard, la grande marche du vendredi a bel et bien été suivie. Les manifestants ont dénoncé du coup la répression contre les étudiants, rejeté l'organisation des élections du 12 décembre et demandé la libération des détenus du Hirak, mouvement de contestation qui en est à sa 34e semaine. Le dernier à avoir été placé en détention hier est Abdelwahab Fersaoui, président du RAJ, une organisation de la jeunesse, des arrestations sur fond de crispation politique. Le pouvoir maintient que le scrutin présidentiel reste la seule sortie de crise. Le Rwanda est devenu un pays d'accueil pour des réfugiés et migrants évacués de Libye. 66 d'entre eux sont arrivés à Kigali il y a 2 semaines. Ce jeudi, un autre groupe a été évacué de Libye vers le Rwanda. Il s'agit surtout de ressortissants d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie. Élise Vilchalan, vous êtes chargée des relations extérieures du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Rwanda. Qu'est-ce qui a motivé la démarche de ce pays ?
Comme le Rwanda, en 2017, à travers le président Paul Kagame, avait offert à 30 000 migrants de venir au Rwanda suite à la découverte de pratiques d'esclavage en Libye. L'Union africaine, le gouvernement du Rwanda et le HCR ont travaillé à la rédaction d'un accord tripartite qui permet l'évacuation de 500 personnes à tout moment sur le sol rwandais. Cet accord a été signé le 10 septembre et dès le 26 septembre, le premier convoi d'évacuation, le premier vol a été organisé de la Libye vers le Rwanda.
Alors une fois arrivés, qu'est-ce qui se passe pour eux dans ce centre ou ces centres de transit au Rwanda ?
Dès qu'ils arrivent, le HCR fait une évaluation de leurs besoins en termes de protection. Il est important pour nous de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont les causes pour lesquelles ils ont fui leur pays d'origine, quels sont le type de violations et d'abus auxquels ils ont été soumis, comment sont-ils arrivés en Libye. Une majorité d'entre eux ont fait l'objet de beaucoup de violations des droits humains, beaucoup de pratiques abusives, et certains d'entre eux aussi ont eu un séjour prolongé en détention au sein d'une zone de conflit, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Et une fois qu'on arrive à déterminer tout ça, on arrive un petit peu à savoir un peu mieux leurs besoins humanitaires urgents, et aussi quelles sont les solutions durables qui pourraient s'appliquer à eux.
On parle d'accueil et de transit. Comment sont étudiés les dossiers ?
Plusieurs solutions pourraient leur être apportées. Et en fonction des conditions qui prévalent actuellement dans son pays d'origine et dans la zone dont il provient, le rapatriement volontaire pourrait être envisagé. Donc ça nécessite toute une évaluation. Et ensuite, il y a des solutions qui incluent donc la réinstallation de ces personnes dans les pays tiers, soit à travers un programme de réinstallation classique pour lesquels les personnes qui ont les problèmes de protection les plus difficiles et les plus prégnants peuvent être soumis pour des demandes de réinstallation, notamment vers les pays européens, les États-Unis, l'Australie, les pays d'Amérique du Nord. Et ensuite, ça dépend du pays de réinstallation, est-ce qu'ils sont d'accord de les accueillir ou pas. Sinon, il y a également la possibilité pour eux, si jamais ils ont un statut de réfugié dans un premier pays d'asile, et si les autorités de ce pays le permettent, à ce moment-là, ils peuvent retourner dans leur premier pays d'asile. Mais l'objectif de ce mécanisme de transit, c'est vraiment de les sortir de Libye, parce qu'actuellement en Libye, les conditions sont extrêmement difficiles et le HCR ne peut pas garantir correctement la protection de ces personnes-là.
Élise Vilchalan, merci. Je rappelle que vous êtes chargée des relations extérieures du HCR au Rwanda. Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Stop à l'utilisation de la musique de Prince lors des meetings politiques de Donald Trump. Furieux, les héritiers du chanteur américain ont dû rappeler une nouvelle fois les engagements de l'équipe de campagne du président, car c'est encore le morceau Purple Rain qui a retenti jeudi lors d'un meeting du candidat à Minneapolis. Des Rolling Stones à Adele, Neil Young, Pharrell Williams ou Queen, de nombreux artistes ou leurs héritiers ont déjà dénoncé cette pratique, un exercice vain puisque les responsables politiques américains peuvent obtenir des licences auprès des sociétés de droits d'auteur et donc se passer de la permission explicite des artistes. Ces derniers ne veulent pas en rester là, mais il faut dire que depuis la précédente campagne de 2015 aux États-Unis, la justice n'a pas encore été amenée à trancher la question. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Le nord-ouest de la France sous la pluie, de Cherbourg à Nantes. Un ciel voilé partout ailleurs. Les températures oscilleront entre 14 et 28 degrés. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. À la technique, Pierrick Monsigny.